Dans ce premier épisode, Olivier Provencher, professeur en philosophie au Cégep de la Gaspésie et des Îles, et Dave Ferguson, animateur à CJRG Radio Gaspésie, s'entretiennent avec un groupe d'élèves ayant participé à la Commission jeunesse de l'éthique en sciences et en technologie. Le sujet, la reconnaissance faciale, cet enjeu du futur qui frappe déjà à nos portes.
Aujourd'hui, on s'interroge surtout sur la reconnaissance faciale. Olivier Provencher, professeur en philosophie, on est accompagné des participants à la Commission jeunesse en sciences et technologies du Québec. Donc, ils ont participé à une rencontre biannuelle et cette année, le sujet étant la reconnaissance faciale et ses enjeux.
Ouais, ben plus précisément, Dave, en 2020, cette année, vous pouvez encore se rencontrer et discuter en grand groupe dans une salle fermée. Donc, janvier 2020, commission d'éthique en sciences et technologies du Québec, en fait, donc qui est une commission gouvernementale qui s'intéresse à des enjeux liés aux technologies, donc enjeux éthiques. Puis c'est ça, je suis allé avec cette belle gang de joyeux lurons-là jusqu'à Québec, sur la colline parlementaire, là, pour discuter, délibérer en fait avec des jeunes d'autres cégeps du Québec sur les enjeux éthiques liés à la reconnaissance faciale.
Il y a justement eu un rapport qui a été produit suite à ces délibérations-là, ces discussions-là. Aujourd'hui, on a pour en discuter Louis-Gabriel Roussy, Karianne Cloutier, Gabriel Gaudreau et Danaé Gilbert. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup, bonjour. Merci.
Donc, d'entrée de jeu, je vais vous lancer sur le vif du sujet. Parlez-moi de la reconnaissance faciale. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit prendre ça en considération aujourd'hui? Selon vous, là, selon ce que vous avez, vos discussions, vous voyez ça comment, la reconnaissance faciale?
Je vais me permettre de commencer. Dans le fond, oui, c'est essentiel de le prendre en considération parce que on la vit tous les jours. C'est une technologie qui est présente au quotidien. Le meilleur exemple, c'est la reconnaissance pour l'ouverture de nos téléphones quand on le regarde. Mais ça s'utilise aussi dans d'autres contextes, mettons dans les aéroports, où est-ce qu'on peut facilement s'authentifier en regardant une caméra et en scannant notre passeport. Sinon, ça s'utilise aussi dans des systèmes pour plus des contrôles de foule, de la surveillance policière un peu plus pour s'il y a eu un délit, ben c'est plus facile de retrouver le criminel en personne avec cette technologie-là que juste aller au bouche à oreille et essayer d'analyser par la population qui a commis un acte criminel. C'est les principaux contextes où est-ce qu'on la retrouve.
Donc, c'est quand même un dossier assez épineux parce que, qui dit reconnaissance faciale, qui dit données, comme tu mentionnais, dit aussi qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients par rapport à cette technologie-là. On voit beaucoup d'avantages en avant-plan, un peu comme tu mentionnais, pouvoir l'utiliser pour débloquer nos téléphones, pouvoir s'identifier dans un aéroport, les policiers également, qui justement vont s'en servir pour identifier des criminels. Mais quels sont les inconvénients qu'on peut trouver? Parce qu'il ne doit pas y avoir que du positif dans tout ça.
Ben en fait, moi, si je peux me permettre un peu de faire du pouce sur ce que Gabriel disait, évidemment, il y a beaucoup d'inconvénients plus du côté de l'éthique de la chose là, qu'on va plus aborder tout à l'heure, mais c'est sûr qu'à la base, n'importe quelle technologie, c'est quelque chose qui est créé par l'humain, donc évidemment, il y a toujours une possibilité là, qu'il y ait des erreurs là, qui vont intervenir finalement là, dans les algorithmes utilisés pour faire fonctionner la technologie. Si on parle, par exemple, des faux positifs, des faux négatifs, si on est dans le contexte de, par exemple, identifier un criminel, bien évidemment qu'un faux positif peut devenir très grave. Là. C'est aussi le principe que la reconnaissance faciale, c'est une technologie qui est développée qui continue tout le temps à être entraînée là, en tout temps. Donc oui, la banque de données de base va pouvoir créer l'algorithme pour le faire fonctionner, mais on va toujours continuer là, à se développer au fur et à mesure qu'elle est utilisée. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, on essaie qu'il y ait le plus grand pourcentage d'efficacité, mais comme n'importe quelle technologie peut avoir des erreurs là, dans l'efficience ou la fiabilité, je pense que c'est là les plus gros inconvénients qu'on peut trouver, parce que s'il n'est pas à 100% efficace, ben là, c'est là que les enjeux un peu plus éthiques viennent être en jeu. Là.
D'accord, je comprends bien. Donc, c'est vraiment une technologie qui est encore en évolution et tant qu'elle ne sera pas optimale, il y a des risques d'erreur et c'est là qu'on peut voir des inconvénients. Mais comme vous mentionniez les deux, il y a surtout des considérations d'ordre éthique. Et là, c'est vraiment le gros du sujet que vous avez plongé au sujet de la reconnaissance faciale. il y a toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, pour faire fonctionner ces technologies-là, souvent, on doit programmer ou créer des algorithmes, créer presque un cerveau, une façon de penser. Comment on peut différencier la reconnaissance faciale de l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble?
La reconnaissance faciale utilise les algorithmes d'intelligence artificielle pour fonctionner. Fait que c'est des technologies qui sont un peu en interconnectivité. L'un ne va pas sans l'autre. L'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle repère entre des larges bandes de données. Elle repère des corrélations, des ressemblances, puis elle fait des classifications là-dedans, puis elle fait des prédictions. Puis justement, comme Daniel disait, ben, puis on en a parlé un peu, c'est un apprentissage dynamique. Plus que l'intelligence artificielle et les algorithmes vont avoir accès à une large bande de données, plus les algorithmes vont être efficaces. Fait qu'après, c'est toujours de justifier est-ce que ça en vaut la peine.
Si je peux me permettre de donner une petite précision, là, c'est que maintenant, le paradigme de recherche en intelligence artificielle, celui qui est à la mode ces temps-ci, c'est le machine learning ou l'apprentissage machine. C'est sur cette manière de programmer-là que finalement s'appuient les dispositifs de reconnaissance faciale. Donc, c'est vraiment des machines qu'on entraîne à analyser des bases de données, puis des bases de données massives. Donc, on travaille de plus en plus avec ces bases de données-là et avec cette grande quantité de données hein, qui s'agit bon, d'analyser, de traiter, comme les jeunes l'ont bien dit, là, sur lesquels on essaie de tracer dans lesquels on essaie de tracer des corrélations, faire des liens. Donc, c'est pas tout à fait le même type d'algorithme qu'on a généralement en tête lorsqu'on pense à des algorithmes où là, c'est vraiment une espèce de calcul. Avec des étapes bien, bien claires et bien définies pour le programmeur. Là, on tombe dans un niveau de complexité quand même tout autre avec l'apprentissage machine.
C'est des algorithmes qui apprennent, qui sont évolutifs, dans le fond.
Tout à fait, exact.
Là, je vous pose la question, c'était décrit dans votre rapport et je trouvais ça très intéressant. Est-ce que ces algorithmes-là, ces outils de reconnaissance faciale-là, est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'ils peuvent apporter une discrimination? Est-ce qu'ils ont un biais dans leur programmation?
Effectivement, déjà, on a déjà eu des preuves de biais discriminatoires dans les algorithmes, justement en lien avec le machine learning et tout ça, parce qu'il y a eu des problèmes de fiabilité dans certains groupes de personnes, comme les personnes, par exemple, non blanches. En fait, les systèmes étaient plus efficients sur les personnes qui étaient blanches. Puis même, ça marchait un peu moins bien sur les femmes, les personnes âgées, puis certains enfants. Puis il n'y a pas seulement ça aussi, il y a d'autres problèmes de discrimination qui sont liés avec les données justement qu'on parle beaucoup, qui sont très importantes, parce que les données utilisées pour alimenter les algorithmes, ça peut facilement créer des biais discriminatoires parce qu'elles ne représentent pas totalement la réalité. Fait qu'elles peuvent porter des... C'est-à-dire que si on utilise des bandes de données, par exemple, avec une majorité de Caucasiens pour représenter une population, ben les algorithmes vont juste s'alimenter avec majoritairement des Caucasiens puis vont être beaucoup moins efficaces, par exemple, sur des personnes de d'autres races ou avec d'autres origines qui n'ont pas exactement les mêmes traits que les Caucasiens. Puis il y a aussi un autre problème très important, c'est que ben justement, les développeurs de ces algorithmes-là, ils peuvent inconsciemment porter apporter des biais dans les algorithmes. Les systèmes sont donc porteurs des biais des développeurs.
Et pas seulement des développeurs, hein, aussi des gens qui ont, d'où émanent, si on veut, les données qui sont recueillies par l'algorithme. Donc, il y a un peu ça aussi, là, c'est que si l'algorithme est entraîné à partir des données massives, donc des données qui émanent de notre utilisation d'Internet notamment, bien, il va assimiler et reproduire les biais qui sont les biais finalement des personnes qui produisent les données.
Ça me fait donc venir à la question, est-ce que la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est transparent? Souvent, on va parler un peu comme Olivier mentionnait, un algorithme traditionnel, c'est pour répondre à une question. Donc, il va y avoir une démarche précise qui va être créée par justement le procédé. Est-ce que ces machines, ces fonctionnalités, ces algorithmes-là sont totalement transparents? Est-ce qu'on peut connaître la démarche avec exactitude qui est un peu la façon de penser de ces algorithmes-là?
Pour le moment, non. Comme on l'a dit plus tôt, la reconnaissance faciale, ça fonctionne avec les intelligences artificielles. Puis les intelligences artificielles, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de tracer au complet. Fait qu'on est capable de savoir qu'est-ce qu'on donne à l'algorithme de l'intelligence artificielle. On est capable de savoir c'est quoi qu'elle nous donne en retour, mais on n'est pas capable de voir le cheminement qu'elle fait entre ça. Tu sais, c'est un peu ça le problème, le fait qu'on n'est pas capable de comprendre, on ne peut pas trop savoir c'est quoi les points positifs, les points négatifs, est-ce qu'il y a de la discrimination là-dedans, c'est un peu difficile de savoir où est le problème, parce que justement, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est vague, puis c'est vague autant pour la population générale que pour le monde qui travaille directement là-dedans. Là. C'est un problème qu'on appelle comme le problème de la boîte noire. Puis tu sais, c'est pas transparent à ce niveau-là, c'est pas transparent au niveau du fonctionnement. Puis c'est aussi difficile d'être transparent là, au niveau de comme qu'est-ce que nous on reçoit là, souvent avec les technologies. Par exemple, n'importe quelle technologie, là, souvent la population est plus ou moins informée des conditions d'utilisation. C'est un problème de transparence à ce niveau-là aussi, puis c'est le même problème qui arrive avec la reconnaissance faciale en ce moment. Là.
Donc, c'est un peu un outil qu'on utilise sans nécessairement comprendre.
Je sais qu'il y a des recherches là, qui ont été faites pour essayer de comprendre comment. C'est le processus complet de l'algorithme, mais souvent, ce qu'on a réalisé, c'est que plus on essaie de comprendre, plus l'algorithme doit être simple, puis moins il est efficace dans ce sens-là.
Donc, de le rendre transparent enlèverait un peu à son utilité, parce que je peux comprendre à tes propos, Karianne.
Oui, exactement. Dans le fond, il faut comme trancher, est-ce qu'on veut qu'il soit plus fiable, puis moins transparent, ou plus transparent et moins fiable. Tu sais, il y a comme ce dilemme-là à trancher aussi à ce niveau-là.
Très, très, très intéressant. Ça nous amène quand même à une question de est-ce qu'on est prêt à offrir nos données à justement ces algorithmes-là pour possiblement avoir un effet positif? Parce que oui, il y a des bienfaits, mais ne sachant pas qu'est-ce qui se passe avec nos données par la suite, ça peut être un gros enjeu pour plusieurs strates de la population. Justement, je tombe là-dessus, le sujet des personnes âgées, parce que je remarque beaucoup, les gens vont utiliser une technologie, mais n'ayant pas nécessairement la compétence de comprendre, ou du moins les connaissances pour bien comprendre comment ça fonctionne. Prenons exemple ma grand-mère qui va utiliser sa tablette, qui va la débloquer avec la reconnaissance faciale, ne sachant pas pourquoi, mais ça fonctionne, c'est plaisant, c'est utile. Comment on fait pour pallier avec cette génération-là qui a un écart technologique face à ces nouvelles technologies-là, ces nouvelles apparitions-là?
Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Puis je pense qu'il ne faut pas rêver puis penser qu'avec la technologie de la reconnaissance faciale, on va être capable de surpasser ça. Là, c'est un problème qui est là pour la majorité des technologies qu'on utilise actuellement, puis on s'en fait pas plus que ça. C'est sûr que, tu sais, nous, on mise beaucoup dans nos recommandations sur l'éducation. Fait que oui, l'éducation dans les écoles, l'éducation pour les jeunes, mais aussi l'éducation pour les personnes qui sont plus âgées. Puis c'est pour ça aussi que nos conditions d'utilisation, là, nous, on a beaucoup parlé de ça, qu'on veut des conditions d'utilisation qui sont claires, qui sont accessibles à toute la population au complet. On veut pas que ce soit des longues pages écrites en minuscules que personne lit, là. On veut que ce soit quelque chose qui est comme assez clair pour que tout le monde puisse comprendre puis utiliser des mots que la population complète aussi peut comprendre. Par contre, je pense que c'est ça, là, rendu pour les personnes âgées puis même les adultes en général. On peut pas vraiment forcer les gens à s'informer. Donc, c'est sûr que notre but, c'est de faire des campagnes d'information, faire des campagnes publicitaires, mais rendu là, c'est à la population à décider là, de s'informer puis de prendre la peine de se conscientiser avant de prendre des décisions.
Par contre, il y a un enjeu aussi qui est important, là, ben, lié à l'information, à la conscientisation, puis aussi à la clarté des explications, puis c'était l'enjeu du consentement. Tu sais, par exemple, on avait l'exemple de l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les centres commerciaux, par exemple. Donc, on entre dans un magasin et puis finalement, il y a un dispositif de reconnaissance faciale qui recueille les données à propos de qui nous sommes et de quelle... afin finalement de voir quelle partie de la population hein, est susceptible de venir magasiner dans le magasin, qui achète quoi, etc., etc. Il y avait... Je crois qu'on avait soulevé l'exemple du... donc, on demande la permission à l'entrée du magasin de recueillir par reconnaissance faciale des données, mais après ça, ben, à qui ça sonne une cloche au juste, là? Ça, c'est une autre question. Donc, oui, on va reconnaître mon visage, mais qu'est-ce que ça implique, ça, qu'on reconnaisse mon visage, qu'on recueille mes données biométriques, puis qu'on les analyse? C'est pas nécessairement évident au moment où on appuie sur oui ou sur non, là, au moment de rentrer dans un magasin, par exemple.
Est-ce qu'on a un droit de refus, selon vous, par rapport à ces technologies-là? Je pense, par exemple, la notion d'être dans un lieu public. Est-ce que ces technologies-là nous affectent, qu'on soit dans un lieu public, qu'on soit dans un lieu privé? Comment on doit voir ça? Est-ce qu'on a un droit de refus, une protection de notre vie privée?
Oui, bien, dans le fond, oui, là, c'est ça que nous, on veut absolument qu'on ait des droits de refus, surtout dans les utilisations commerciales, un peu, là, dans les utilisations privées. On veut que, par exemple, justement, dans l'exemple qu'Olivier vient de nommer, là, que si on rentre dans un magasin, ben, on a le droit de choisir oui ou non si on veut, si on veut comme, subir cette technologie-là, là, un peu. Mais, puis on veut pas que ça affecte, on veut pas qu'on dise non, nous on veut pas avoir de la reconnaissance faciale, puis qu'on nous dise non, vous pouvez pas entrer. T'sais, ça, c'est vraiment ça qu'on veut éviter. On veut éviter qu'il y ait un petit peu de la discrimination encore à ce niveau-là. Là. Si on veut pas avoir la technologie, bien, ça nous limite dans nos actions, on veut pas ça. Par exemple, c'est sûr aussi que si on décide d'utiliser cette technologie-là à des fins de sécurité, par exemple, dans un lieu public pour retrouver un criminel ou peu importe, là. Ben, c'est un peu difficile de pouvoir dire aux gens vous avez le droit de refuser, tu sais, parce qu'à ce moment-là, ben, à quoi ça sert la technologie si on peut juste la refuser, tu sais, elle perd vraiment de son intérêt là, dans cette situation-là. Fait que c'est vraiment tranché quand est-ce qu'on peut avoir un droit de refus, puis quand est-ce non. Tu sais, encore là, il faut utiliser notre gros bon sens, mais nous, dans la majorité des cas, là, surtout quand c'est des entreprises de marketing ou des choses comme ça, là, on veut absolument qu'on puisse avoir un droit de refus.
Je rajouterais même que, en fait, nous autres, ça a été pas mal un consensus dans la commission que. Le domicile, c'est impénétrable, c'est comme c'est un endroit où on peut pas, ça peut pas être considéré comme, même si pour des raisons de sécurité, ça reste un lieu, comme toute la plupart des technologies de surveillance, un lieu qui doit être protégé de ça.
Donc, à moins d'une utilisation qui est consentante et consciencieuse, donc quelqu'un qui apporte la technologie elle-même dans sa maison.
Exactement.
On poursuit la discussion sur les algorithmes. Selon vous, qui devrait être tenu responsable des résultats qui émanent d'un algorithme? Comment on fonctionne avec ça? Est-ce que ça peut être tenu responsable, une programmation?
Oui, mais en fait, ce point-là, c'est encore un peu en discussion. Là. Il y a pas eu... T'sais, c'est sûr que c'est difficile de nous-mêmes aller dire exactement sur qui on devrait mettre la faute. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, comme on disait tout à l'heure, à la base, il faut déterminer si les institutions publiques ou privées vont avoir les mêmes droits là, sur cette technologie-là. Parce qu'évidemment, si on parle du gouvernement qui l'utilise, ben, c'est plus facile de dire, OK, ben, c'est le gouvernement qui va lui-même déterminer justement là, qui devrait être blâmé si jamais il advenait qu'il y avait des erreurs ou quoi que ce soit. Dans le secteur privé, c'est un peu plus compliqué parce que là, est-ce qu'on parle d'une compagnie ou on parle d'un à qui on doit faire affaire si, par exemple, mon téléphone ne me reconnaît pas, ben, c'est une chose, mais ça peut aller vraiment plus loin que ça. Mais il y a le principe, un grand principe là, qu'on a abordé beaucoup pendant la commission, c'est le principe d'imputabilité. L'imputabilité, tu sais, en gros, c'est la possibilité d'attribuer la responsabilité d'un fait là, ou d'un événement à une personne ou une compagnie ou peu importe. Parce que bon, on se dit, est-ce que si l'algorithme en soi, tu sais, l'algorithme, c'est quelque chose, évidemment, que c'est des programmeurs qui la font. Est-ce que c'est le programmeur lui-même qui devrait être blâmé s'il y a une erreur dans l'algorithme? Mais en même temps, si le programmeur, lui, fait partie d'une compagnie qui est plus haute, qui le dirige, ben là, est-ce que c'est la compagnie? Donc, tu sais, c'est d'aller déterminer ça d'avance et pas après que les erreurs aient été faites. Parce que si jamais on arrive à porter préjudice à quelqu'un, si on parle, par exemple, d'un dossier criminel où est-ce que quelqu'un a été faussement blâmé, surtout, là, présentement, dans l'actualité, on en voit, là, des cas comme ça, de trucs que, bon, des gens arrêtés pour rien, là, mais est-ce qu'on se dit, si jamais la reconnaissance faciale venait à faire une erreur assez grave pour que quelqu'un en soit affecté, ben à qui on devrait sur qui on devrait mettre la faute. Puis comme je dis, c'est un peu vague, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonne réponse. C'est pour ça que je pense que c'est surtout important d'aller le déterminer d'avance. Puis je pense que c'est du cas par cas là, d'aller dire ben telle utilisation devrait être à telle personne. Oui, Gabriel.
Je veux juste rajouter un petit point à ce que tu dis qui est important aussi. C'est toujours dans les processus, c'est pas d'attribuer le processus décisionnel aussi aux algorithmes. Il y a toujours un humain impliqué dans les décisions dans le processus que l'algorithme. Si l'algorithme arrive à une conclusion, c'est toujours en soutien à une décision humaine dans le fond. Il y a pas de, on veut pas laisser purement la responsabilité décisionnelle à un algorithme. On veut juste qu'il soit là en recommandation un peu à l'humain, vraiment qu'il soit, en fait, c'est toujours de justifier s'il est plus efficient ou efficace qu'un humain ou pas dans plusieurs contextes.
Donc, on garde toujours le jugement humain dans l'équation d'une décision.
Exactement.
Parce que, tu sais, souvent, on va assumer qu'une technologie est meilleure pour faire une certaine tâche qu'un humain. Mais si finalement c'est pas le cas, ben ça peut juste être pire. Tu sais, si on parle par exemple d'aller faire un tri dans une pile de CV pour déterminer quel candidat a les meilleures qualifications pour un tel emploi, ben ça se peut que notre algorithme ait un meilleur justement une meilleure capacité à faire ça que l'humain. Et si finalement l'algorithme, par exemple, comme on parlait avec Karianne tout à l'heure, ben avait un système un peu plus discriminateur, ben finalement, l'humain aurait peut-être été mieux. Fait que, c'est de tout le temps supporter la décision. Donc, si on vient à une conclusion avec l'algorithme, ben, d'aller voir un humain, de dire est-ce que c'est la même décision que l'humain aurait pris là, à la fin. Là.
Puis aussi, pour déterminer c'est à qui la faute, en tant que commissionnaire, on n'était pas les personnes bien placées pour dire ça non plus. On tombe dans un domaine beaucoup plus législatif. Nous, on était là pour dire, pour donner des recommandations face à la technologie, des recommandations éthiques. Mais tout ce qui est législatif, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, on va recommander de s'assurer d'avoir une législation pour s'il y a des méfaits qui arrivent avec l'algorithme. Mais on n'est pas là pour dire à qui la faute. Et ça va être des domaines qui vont être couverts, en fait, des sujets qui vont être couverts par des gens dans le domaine légal.
Très intéressant, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut devenir extrêmement complexe si on vient qu'à donner les pouvoirs décisionnels à des algorithmes qui apprennent avec ce que vous avez parlé un peu plus tôt, le deep learning ou l'apprentissage automatisé. Ça peut devenir une question assez épineuse rapidement. Je vous pose la question concernant le public versus le privé. Je sais que vous en faisiez mention dans votre rapport. C'est quoi les enjeux d'avoir cette technologie-là pour le privé, mais aussi pour le public?
Je pense qu'à la base, le plus grand, la reconnaissance faciale va être utilisée surtout dans des contextes de sécurité. Si on parle de sécurité, là, vraiment dans des gros événements, puis tout, c'est sûr qu'il y a une part de la charge qui va, je pense, au gouvernement, puis sur des lieux publics, des trucs comme ça. C'est sûr que si on parle après, on parle du privé, mais en soi, quand on parle d'un téléphone, c'est déjà des compagnies privées. Là, c'est pas le gouvernement qui gère nos téléphones. Si Apple peut utiliser mon téléphone peut utiliser mon visage finalement pour déverrouiller son appareil, on est déjà dans le privé. C'est juste que nous, on se demandait surtout si l'algorithme, mettons, qui va plus loin que juste des trucs de base pour aider finalement là, dans la vie quotidienne. T'sais, on parle de Alexa de Amazon, des trucs comme ça là, qui font tout plein de tâches pour nous, qui allument les lumières, qui parlent de chauffage, c'est une chose, mais quand, par exemple, on parlerait d'identifier notre visage ou, par exemple, d'aller partager nos données là, plus loin que juste dans notre petit appareil qu'on a à la maison, mais là, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que c'est surtout, tu sais, nous, c'est ça, comme Gabriel disait, c'est vraiment des recommandations de dire d'avance jusqu'où les compagnies privées peuvent utiliser nos données pour les partager ou pour d'autres utilisations finalement auxquelles on n'aurait pas consenti ou du moins qu'on aurait peut-être consenti sans réellement avoir pris conscience de ce à quoi on consentait.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que dans le domaine privé, ce qui nous faisait peur un petit peu aussi, c'est que pour le moment, cette technologie-là est très peu régie là, pour le domaine privé. Fait qu'en ce moment, ils ont un peu le droit de faire n'importe quoi. Puis c'est un petit peu ça qui fait peur aussi. Puis tu sais, c'est de se dire, nous, on est comme cette technologie-là, OK, si on décide d'y aller à fond, tu sais, ça veut pas, ça prend du matériel, ça prend du temps, il faut l'installer et tout ça. Puis ça a beaucoup quand même de conséquences là, sur notre liberté, sur notre vie privée, etc. Donc, avec n'importe quelle technologie, là, c'est tout le temps de se dire, ben, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce que ça prend pour la faire, c'est proportionnel à ce que ça nous apporte? Puis, ce qui nous fait peur un petit peu avec le privé, c'est qu'il ne veut pas, il cherche à faire de l'argent avec ça, là. Puis, parfois, au détriment un petit peu là, des libertés humaines, puis tout ça. Puis, c'est qu'eux, avec cette technologie-là, ils ont accès à des informations que, ben, on n'est pas tout le temps conscient qu'on donne. Tu sais, par exemple, dans des magasins, si on vient à regarder les émotions qu'on a, on n'est pas tout le temps en train de se dire ah, OK, je vois ça, j'ai telle émotion. T'sais, on ne sait même pas à ce à quoi on consent parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est capable de donner puis qu'est-ce qu'eux sont capables de prendre. Fait que je pense que c'est ça que dans le domaine privé, on est vraiment plus réticent à ce niveau-là parce que justement, c'est pas vraiment régi. Puis il y a beaucoup de possibilités de faire des choses qui peuvent avoir beaucoup de conséquences là, dans le futur.
Exact. Il y a quelque chose de quand même assez, assez étrange dans le fait qu'un dispositif technologique sache plus de choses à propos de nous-mêmes que nous-mêmes. Parce que c'est ça quand même que Karianne décrit, là, Ah bon, j'étais en train de ressentir telle émotion. Ben.
C'est le constat que plusieurs personnes font, par exemple, sur l'utilisation sur Google. On peut aller vérifier et connaître, de par nos recherches, ils ont un profil individualisé de chaque personne qui est accessible. Si on fait la demande, on peut aller voir exactement. Et j'ai été faire l'exercice juste avant la discussion et je peux vous dire qu'ils me connaissent très bien. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que, en un sens, on peut avoir accès à des services plus personnalisés, mais comme vous le mentionnez, jusqu'à où ça peut aller, c'est quoi les limites que l'entreprise privée a avec ses données, c'est quand même assez intéressant et assez vaste. Je vais vous amener éventuellement à vos recommandations, mais avant, je voudrais connaître un peu le fonctionnement de votre commission. Donc, avant d'arriver aux recommandations que vous avez faites, racontez-moi l'histoire. Donc, comment vous avez embarqué dans ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a fait vouloir embarquer dans la commission Jeunesse en sciences et technologies du Québec?
Je pense que les motivations, à la base, ben, on a toutes nos motivations propres à nous. Là. C'est sûr que on était toutes des élèves un peu qui avaient déjà participé à des cafés philo, des thés philosophiques au cégep, des trucs comme ça. Quand on a eu, c'est en fait Olivier justement qui nous a parlé de la commission, de ce que c'était et tout. On savait que ça allait être surtout un travail de recherche, de documentation à la base. Puis qu'ensuite, là, ben, on allait justement aller faire l'espèce de petit séjour à Québec. Mais c'est surtout ça, c'est la conclusion, je pense, du processus. Là. Avant tout, il y a eu une espèce de processus, comme je dis, là, de nous-mêmes aller s'informer là-dessus parce qu'on ne peut pas arriver là en n'ayant aucune connaissance de ce dont on allait parler. Là.
Individuellement, je suis curieux à savoir votre perception avant de commencer le projet. Vous avez vu ça comment au début et par après, est-ce que votre perception a été changée comment?
Et moi, là, pour vrai, au début, là, j'étais vraiment parce que ça parle de la reconnaissance faciale. Puis, tu sais, je veux pas, c'est quand même beaucoup technologique. Là, puis, de base, je suis vraiment pas quelqu'un de technologique. Puis ça m'a vraiment fait douter là, au début, mais pour vrai, justement, comme je le conseille là, pour les futurs participants, il ne faut pas que le thème vous stresse ou vous donne envie de ne pas y aller. Là, l'expérience est incroyable. Puis on se documente, oui, sur la technologie, c'est sûr, mais ce qu'on fait, veut pas, c'est de nature éthique. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, là, peu importe sur quel sujet ce serait. Là, je pense que c'est vraiment pas ça qui est un problème. On ne va pas en profondeur dans le fonctionnement ou peu importe, là, n'importe qui aurait pu en parler de la reconnaissance faciale. Là.
Tout de suite, l'image collective des fois qu'on a de la reconnaissance faciale, c'est l'instrument un peu vraiment technologique avec les rayons laser d'espions qui nous analysent le visage. Mais quand on décortique, on prend le temps un peu de s'informer. Moi qui étais zéro conscientisé sur tous les enjeux qui tournaient autour de ce sujet-là, je trouve que c'était vraiment intéressant d'aller voir là-dedans puis de comprendre mieux puis d'un peu plus. Après, est-ce que mon avis a changé sa technologie? Ben, je dirais juste que je la comprends mieux, j'en suis plus conscient puis peut-être que je suis plus réticent sur certains enjeux, mais j'ai pas envie non plus de diaboliser la chose autant que ça, comme on a dit, ça peut avoir, c'est sûr qu'il peut avoir des graves erreurs dans l'utilisation, mais c'est sûr qu'il peut avoir aussi des apports incroyables pour notre société.
Ouais, moi, j'avais absolument aucun avis, en fait, là-dessus, là. J'ai plongé dans le projet, puis je me suis dit, ben, ce sera ce que ce sera, mais un peu comme Karianne a dit, peu importe le sujet, je pense que c'était surtout d'aller faire un travail, puis d'aller, un travail de réflexion, un travail de recherche, de réflexion, tout. Mais en soi, mon avis, c'est difficile d'avoir un avis sur une technologie parce que là, c'est pas à la base, quand on a une opinion sur quelque chose, souvent, c'est parce qu'il y a des côtés éthiques. Je pense que mon avis s'est développé justement quand on s'est mis à relever là, les enjeux éthiques. Mais en soi, je pense que c'était difficile d'avoir un avis avant de connaître là, tellement cette technologie-là. Là.
Donc, c'est assez intéressant de voir le cheminement que vous avez fait quand même parce que de partir de ce que vous mentionnez, d'avoir très peu d'avis nécessairement, mais d'aller chercher l'information par la suite et en venir à faire des recommandations. J'imagine, Olivier, toi aussi, tu as eu un apport au niveau information par rapport à cette commission.
Il y a quand même une documentation là, qui nous était fournie par les responsables là, de la commission jeunesse. Là, que je vais en profiter pour les saluer, d'ailleurs, Dominique Clich puis David Rochetoul. Qui travaillent à la commission d'éthique en sciences et technologies, qui ont fait un super travail d'animation, mais aussi de recherche. Là, donc, si jamais ils entendent de ce premier épisode de notre balado-diffusion, un gros chapeau à eux pour ce travail-là. Mais donc, il y avait une documentation là, initiale qui était déjà fournie, puis sur laquelle il a fallu qu'on se penche. Là. On a quand même eu, je pense, un bon mois et demi de préparation, une rencontre aux 2 semaines, je pense, Donc, on avait pas mal de textes à lire quand même.
Quand même un cheminement avant d'arriver à ces discussions-là, oui, ces délibérés.
Tout à fait.
Dans les autres opinions, parce que vous êtes quand même une fraction des gens qui ont participé, est-ce que vous avez vu d'autres idées qui sont arrivées sur la table, qui ont peut-être surpris, ou des idées qui ont peut-être, je vois Danaï rire présentement, j'imagine qu'elle a quelque chose à raconter?
Ben, j'irai pas dans le détail, bien évidemment, là, mais tu sais, je pense que à la base, c'est pas pour rien que cette espèce d'organe-là du gouvernement là, fait appel aux jeunes, on veut la vie des jeunes. On ne va pas se mentir, là, on est à une époque où les jeunes ont souvent des opinions soit très arrêtées sur certains sujets ou au contraire, là, sont super ouverts sur d'autres sujets. Mais je pense que c'était inévitable là, qu'on allait arriver à la commission puis qu'en se mettant à discuter, c'est sûr que certains d'entre nous allaient avoir des opinions divergentes de d'autres. Mais évidemment, je pense que c'est ça là, qui faisait qu'on allait avoir une meilleure réflexion parce qu'évidemment, si on est arrivé et qu'on avait tous eu les mêmes opinions, les mêmes idées, ben ça n'aurait pas fait avancer la discussion. Mais c'est sûr que des fois, c'était difficile là, d'arriver à un consensus parce qu'aussi, il fallait comprendre que nous, on était juste là pour donner une recommandation. C'est un rapport de recommandation qu'on remet au gouvernement, puis exactement qui va le lire, on ne sait pas la personne en soi qui va lire ça. Est-ce qu'elle va réellement prendre nos recommandations en compte? On ne sait pas, mais c'est sûr que des fois, pour certains, c'est difficile de voir qu'on n'avait pas réellement un pouvoir décisif. Il fallait un peu se reculer et dire, écoutez, nous, on recommande ça. Après, c'est à eux de faire ça de prendre en compte ça et de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que des fois, c'était difficile là, de s'entendre. Puis,
je suis pas toutes les mêmes valeurs. C'est juste
exactement,
ça,
c'est ça. Puis souvent aussi, c'est sur des détails. Là. Souvent, l'idée d'ensemble, on s'entendait. Mais là, quand on arrivait en détail, ben, il fallait justement un peu se dire, il y a ces détails-là, c'est pas à nous de les régler parce que sinon, on aurait pu rester là pendant 6 mois. Là. On aurait pu en jaser tellement longtemps.
Mais c'est passé du cas par cas aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'en général, on peut dire, on veut vraiment faire attention à la liberté des gens, mais peut-être que dans une situation précise, quand la vie de quelqu'un est en jeu, on va être comme, la liberté des gens autour, c'est moins important, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut faire attention parce que, comme Danaïl a dit plus tôt, là, nous, on cherchait vraiment à faire un consensus, là. Fait qu'il fallait que l'avis de tout le monde soit d'accord avec chacune de nos recommandations, là. Tu sais, il pouvait pas avoir une personne qui était comme, ouais, non. Il fallait vraiment que ce soit tout le monde. Puis, tu sais, c'était pas un débat. Le but, c'était vraiment pas d'essayer de convaincre les gens. Là, le but, c'était de prendre les opinions de tout le monde et d'essayer de trouver c'était quoi le compromis entre tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau travail. C'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire, là, peu importe dans nos cours. Là, fait que, puis, avec l'avis de beaucoup de personnes, tu sais, on n'était pas 50, là, je pense qu'on était à peu près 13 jeunes, mais veux pas, c'est difficile de faire en sorte de trouver un énoncé que 13 jeunes sont comme, ah ouais, OK, on est d'accord avec ça. Fait que, mais ouais. C'était tout qu'un travail, mais c'était vraiment le fun.
C'est aussi important de spécifier qu'on l'a fait sur plusieurs jours. Fait que de jour en jour, on approchait de plus en plus à un consensus. Au début, c'était, on avait vraiment tous une opinion individuelle divergente. Puis plus ça avançait dans les discussions, plus on était capable de dire des grands enjeux qui sont devenus les 10 recommandations. On était capable de dire, admettons, OK, ben par rapport au consentement, on est tous d'accord pour dire que ça doit être clair. Par rapport à la sécurité, ben on s'entend tous sur tel point. Et c'est ça, c'est vraiment par discussion et par réflexion qu'on a réussi à avancer.
Je vais vous envoyer sur le sujet maintenant des recommandations que vous avez formulées. J'aimerais que vous m'en parlez un peu de ces recommandations-là, celles qui ont été les plus difficiles à choisir, celles qui vous tenaient le plus à cœur. Comment vous êtes arrivé à ces recommandations-là? Oui, c'était du consensus, mais par la suite, vous envoyez ces recommandations-là au gouvernement. Et est-ce que vous avez eu des rétroactions par la suite? Donc, parlez-moi un peu de cette expérience-là, vraiment d'arriver avec le document final.
À la base, là, ce qui a été fait, c'était surtout de... pendant la commission, il y avait quelqu'un qui était un peu j'ai oublié le mot, la personne qui écrit finalement ce qu'on dit. Comment?
Le rédacteur des recommandations, et Dominique, c'est ça?
Ouais, ben tu sais, il y avait quelqu'un qui prenait vraiment beaucoup, énormément de notes pour qu'après on puisse regarder ça et se dire, OK, qu'est-ce qui ressort? Puis à la base, c'est des grands sujets, là, des grands concepts qui sont ressortis. Les concepts, c'était surtout consentement, droit de refus, sécurité, éducation, sensibilisation, responsabilité, imputabilité, puis les deux dernières. Quelqu'un veut compléter?
C'était sur la recherche qui était importante, puis l'indépendance des institutions publiques.
Donc ça, c'était les grands concepts qui étaient ressortis. Puis là, après ça, on est allé préciser 10 recommandations un petit peu plus détaillées.
Donc, les notes avaient été prises là, par le scribe.
c'est ça le mot que je cherchais.
par le scribe, par Dominique le scribe. Et puis après ça, évidemment, c'était impossible d'écrire à 20 personnes, là, d'écrire un texte. Mais l'essence de ces grandes lignes-là, finalement, ont été reprises et transcrites en phrases dans le rapport qu'on peut consulter sur la page de la CESD, d'ailleurs.
Ben, tu sais, c'est sûr que nos recommandations, on ne veut pas s'entrecoupent un petit peu, là. Tu sais, à la base, je pense qu'on a sorti les principales, un petit peu, recommandations sur la base, justement, des valeurs qu'on trouvait vraiment importantes de conserver ou de prendre en compte dans les utilisations de cette technologie-là. Par exemple, la protection des droits et libertés, l'égalité, la non-discrimination, puis l'autonomie des personnes. Ensuite, on a mis des recommandations qu'on trouve qui sont importantes pour faire en sorte que ces valeurs-là sont conservées, c'est-à-dire développer les technologies continuellement, développer les connaissances des gens aussi, faire de l'éducation. Puis au final aussi, on a aussi sorti des recommandations qu'on trouvait quand même importantes pour nous. Par exemple, on aimerait ça, nous, que la technologie soit créée puis qu'elle soit suivie ici, tu sais, au Québec. On ne veut pas nécessairement devoir dépendre de grosses compagnies d'ailleurs pour pouvoir avoir cette technologie-là aussi, puis aussi pour pouvoir profiter de ce que ça va rapporter ici. Fait que ça aussi, c'est d'autres recommandations qu'on a rajoutées après un petit peu pour comme finaliser l'ensemble. Mais je pense que toutes nos recommandations englobent vraiment les valeurs du départ qu'on souhaite conserver.
Mais tu sais, les principales que, évidemment, là, ça c'était assez consensuel, là. Il y a que les individus puissent, dans la mesure du possible, consentir à l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça, c'était de base. Là, il n'y a pas eu beaucoup de débat sur ce point-là. Puis, pour faire du pouce là, sur cette recommandation-là, il y avait aussi que, dans la mesure du possible, les individus puissent refuser d'exiger un système de reconnaissance faciale, puis sans conséquence, donc de ne pas perdre un privilège par rapport à leur refus.
Niveau aussi sécurité, comme on parlait important, mais c'est une autre recommandation importante qui semble logique aussi, c'est que l'utilisation de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité va se justifier par son efficacité, sa nécessité puis sa proportionnalité. Ça, c'est sûr que non seulement aussi dans des contextes de sécurité, vu qu'on a parlé de responsabilité puis d'imputabilité quand il y a une erreur, mais que dans les cas où il y a un préjudice possible, la reconnaissance faciale, une autre de nos recommandations, c'est qu'il faut que ça demeure un outil qui soutient la décision d'un être humain, que celui-ci ou tout être humain soit toujours impliqué. On a eu beaucoup aussi d'insistance sur le fait qu'on voulait se doter d'instances québécoises pour le financement, la recherche, pour vraiment plus dépendre d'intérêts commerciaux, justement, au Québec, au niveau de l'intelligence, pas de l'intelligence, excuse-moi, de la reconnaissance faciale.
Oui, mais il y avait aussi, par rapport au fait d'impliquer le gouvernement dans le sujet, on voulait aussi une normalisation de la chose. Donc, ne pas arriver, admettons, dans un centre d'achat X et il y a tel modèle d'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale et arriver dans la ville d'à côté, c'est un modèle complètement différent. Dans le fond, on voulait que tous les systèmes soient basés selon des normes et des consignes strictes émises par le gouvernement qui pourrait éviter tout préjudice puis encore une fois éviter de discriminer les gens puis s'assurer notre sécurité de la sécurité de notre vie privée.
Je pense que ce qui est important là, dans ce que Gab vient de dire justement, c'est pour un peu éviter la centralisation des problèmes de centralisation des données des grosses compagnies privées, là, par exemple, comme qu'on voit ces temps-ci avec Amazon ou Facebook, des trucs comme ça. Là. C'était des gros problèmes qui sont ressortis là, dans les alentours du temps où on a eu la commission, puis on était comme pas mal sensibilisés à ça à ce moment-là. Puis ça, ben, on a trouvé que c'était un point important là, à mettre pour essayer d'éviter d'autres problèmes à ce niveau-là.
Donc, ça fait pas mal le tour de vos recommandations. Comme vous disiez, c'est beaucoup entrecoupé. Il y a beaucoup de recommandations qui existent une dans l'autre et qui se soutiennent entre elles. Très, très, très intéressant comme cheminement que vous avez fait là avec cette commission Jeunesse en sciences et technologies du Québec. En conclusion, je vous demande, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Pas nécessairement au niveau de la reconnaissance faciale, mais au niveau personnel. Est-ce que vous avez rajouté quelque chose à votre coffre d'outils personnel, à vos connaissances, à vos projets de vie peut-être?
Ouais, ben oui, c'est sûr. Moi, c'est une très belle ligne sur mon CV. non, mais pour vrai, je pense que Honnêtement, moi, je pense que ça m'a surtout permis d'aller voir un autre aspect un peu de la philo, là. Parce qu'en soi, on n'a jamais appelé ça de la philosophie, sauf que nous, pour nous, c'est dans le cadre un peu des activités philosophiques du cégep. Puis, tu sais, au lieu de juste parler... Parce que souvent, la technologie, on n'en parle pas nécessairement dans le cadre de la philosophie. On va aller avec des sujets qui sont plus souvent abordés. Mais là, ça a permis d'aller vraiment avoir des réflexions précises sur un sujet précis, avec des gens qui avaient vraiment des opinions importantes là, à apporter sur le sujet. Puis je pense que c'est là la plus grosse richesse de cette expérience-là, là, d'avoir pu découvrir un autre aspect un peu là, de ce qu'on peut faire avec la philo et l'analyse éthique. Là.
Puis l'expérience en tant que telle est juste incroyable aussi. Là. Moi, je pense que c'est juste un souvenir incroyable que je porte comme expérience et que je la recommanderais à n'importe quel jeune qui s'intéresse un petit peu à la philosophie, puis surtout à l'éthique, puis un peu aux technologies, mais qui se lance sans hésiter, là, c'est sûr. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé, qui ont passé un mauvais moment de ce que j'ai vu, puis de ce qu'on a senti aussi comme un peu de ce que les autres projectaient comme appréciation de l'expérience. On a tous vu des gens qui étaient contents à la fin de l'expérience, contents du travail, de fierté d'avoir participé à quoi de plus grand que soi. Puis c'est ça, c'était une belle petite fierté, là, c'est le fun.
Moi, j'ai vraiment aimé l'expérience de voir un peu de l'intérieur le fonctionnement d'un gouvernement. D'habitude, la politique, c'est quelque chose de vraiment détaché, puis c'est pas quelque chose qu'on côtoie au quotidien. Puis de le vivre vraiment... C'était juste wow comme expérience. Donc, oui, c'était vraiment le fun.
On n'a pas souvent la chance non plus, comme de quand on fait de l'éthique ou peu importe, là, c'est rare qu'on a la chance de voir un produit final de ce qu'on fait. T'sais. On peut avoir des discussions éthiques avec du monde, puis on est comme, OK, ça n'a aucune répercussion, à part peut-être avoir fait réfléchir l'autre personne avec qui je parle. Mais là, on voit notre produit final, puis c'est le fun de se dire que crime, ben, ce qu'on a fait, c'était pas en l'air. On le voit, c'est concret, puis ça va probablement avoir des impacts là, sur des décisions plus tard. Fait que c'est vraiment le fun aussi.
Qu'on se le tienne pour dit, la philosophie, c'est concret.
Mais c'est intéressant la langue que vous apportez parce que c'est un projet que quelqu'un aurait pu tout simplement embarquer par intérêt personnel, de dire « moi, je m'intéresse à la reconnaissance faciale », mais vous avez trouvé votre compte dans d'autres sphères également, autant au niveau politique pour Gabriel, je pense à l'exemple d'Anaï qui a trouvé plus au niveau philosophique, au niveau de l'application des questionnements, des idéologies, tout ça. Donc, c'est vraiment une expérience assez positive. Puis, un petit peu comme Gabriel, moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est de vous donner une opportunité d'aller vivre un peu la politique de comment ça se passe au niveau des gouvernements, de pouvoir aller creuser plus loin parce que souvent ces rapports-là, on les voit, on ne les lit que rarement, sauf quand ça nous intéresse. Puis quand on les lit, on ne connaît pas nécessairement le travail qu'il y a derrière ça. Donc vous avez pu déjà vivre cette belle expérience. Je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Honnêtement, ça a été quelque chose de très enrichissant. J'avais déjà un peu de connaissances à ce sujet, mais d'aller creuser plus loin, de devoir me creuser les méninges, à voir, bon, est-ce que je suis d'accord avec les recommandations? Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui veut que je vais aller plus loin? Ben, très, très, très intéressant. Puis, j'espère qu'on dans plusieurs années, on va retrouver vos noms sur d'autres rapports de commission. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Ou même que ce rapport-là soit utilisé dans le cadre de différentes décisions qui seront prises ici au Québec.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dave.